FM Auvergne-Limousin, 100% plaisir.
Bonjour et bienvenue Jean-Marc Chirier.
Bonjour.
C'est toujours avec plaisir de vous revoir chez nous. Cela faisait maintenant quelques temps que nous n'avions pas eu l'occasion d'échanger sur la formidable association La Dordogne de Village en Barrage que vous présidez, et ce depuis le tout début. Alors Jean-Marc Chirier, toujours amoureux de cette belle Dordogne?
Ah ben oui, je ne vais pas la quitter maintenant, hein. C'est trop tard.
Et la Dordogne, elle vous le rend bien. Et puis la Dordogne, c'est bien plus qu'un département. La Dordogne, c'est avant tout une majestueuse rivière, la seule en France, dont l'intégralité du bassin a été classée réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. C'était en 2012. 24 000 km² qui en font la plus grande rivière du pays. C'est un milieu naturel préservé et la grande diversité de sa faune et de sa flore lui valent à notre belle Dordogne une labellisation Natura 2000. C'est un peu pour tout cela qu'elle mérite autant d'attention, qu'elle mérite une si belle association, Jean-Marc Chirier.
Oui, c'est pour cela, mais c'est aussi pour la beauté de ses paysages. Il faut reconnaître quand même qu'on a affaire à une rivière superbe, à des gorges vraiment fantastiques. Souvent, ça a été relevé que c'était des gorges de type amazonienne, avec une faune et une flore assez extraordinaires. Ouais. Des points de vue inimitables. C'est un peu pour ça aussi qu'elle mérite d'être classée et qu'elle mérite qu'on s'en occupe.
On constate que les paysages changent d'un département à l'autre. En Corrèze et sur les sentiers de la Dordogne de Village en Barrage, en est-il de même?
Ah, c'est tout à fait différent entre la partie nord, donc la partie Puy-de-Dôme, et la partie sud, Moyenne Corrèze. On n'a pas du tout les mêmes paysages, mais alors c'est assez fabuleux et c'est le retour des randonneurs qui ne retrouvent pas les mêmes forêts, qui ne retrouvent pas le même patrimoine, qui ne retrouvent pas les mêmes points de vue surtout. Et ne serait-ce qu'au même endroit entre la rive droite et la rive gauche, c'est assez fabuleux de savoir que d'un côté on a une barrière naturelle qui sont les montagnes, hein, Mont d'Auvergne et les plans du Cantal, alors que de l'autre côté c'est que l'imagination qui nous arrête, De l'autre côté c'est les Amériques.
C'est en tout cas un patrimoine naturel, historique et culturel que vous mettez en valeur au gré des randonnées que tous peuvent aujourd'hui emprunter. Lorsque l'association a été lancée, il s'agissait d'un projet complètement fou qui devait relier à pied Bort-les-Orgues à Argentat-sur-Dordogne. Mais aujourd'hui, Jean-Marc Chirier, les choses ont bien évolué.
Ah, ça a évolué parce que déjà dans une première partie, nous sommes allés jusqu'à la queue de la retenue du barrage de Bort, ce qui n'était pas le cas au début, mais en s'appelant la Dordogne de Village en Barrage, il était tout à fait normal. On ne pouvait pas faire autrement. Et puis voilà, depuis une année, on a décidé de faire une rive gauche à ce sentier, à cet itinéraire.
Alors une rive gauche, c'est un parcours inverse?
Alors pour des modalités de facilité au niveau des randonneurs, on a souhaité que le topo-guide soit à l'envers de la rive droite. C'est-à-dire qu'il est décidé et dessiné en rive droite d'amont en aval, et en rive gauche d'aval en amont. Et on finit dans le Puy-de-Dôme.
Sentier de randonnée qui offre des vues imprenables sur des paysages grandioses. De Confolens-Port-Dieu à Argentat-sur-Dordogne, ça c'est la rive droite. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là, vous venez de le dire, vous avez continué la marche jusqu'à ouvrir d'autres alternatives d'évasion et d'itinéraire finalement.
Oui, et surtout attirer un nouveau public, parce que l'itinérance c'est quelque chose d'assez compliqué pour les véhicules, pour les gens, pour le transport des bagages. Là, l'avantage qu'il va y avoir, c'est qu'on va avoir un maillage territorial assez extraordinaire avec des traversées possibles. Donc cinq boucles définies, mais de multiples boucles, parce que de une on peut en faire deux, et de deux on peut en faire quatre, et ainsi de suite.
Mais ça représente, en tout et pour tout, ça représente combien de kilomètres, la Dordogne de Village en Barrage?
À peu près 500 kilomètres.
Ah oui, quand même.
Oui, à peu près 500 kilomètres. On a un peu plus de 200 kilomètres maintenant en rive droite, puisqu'il y a une partie du parcours qui a été modifiée tout à fait à l'arrivée à Argentat. Et rive gauche, donc un peu plus de 250 kilomètres, plus toutes les traversées. Voilà, c'est quelque chose assez extraordinaire.
À noter que la Dordogne, depuis sa source au Sancy jusqu'à l'estuaire de la Gironde, c'est pas moins de 483 kilomètres. Vous avez donc réussi l'exploit de créer presque l'équivalent, on va dire même presque autant, en sentier de randonnée dans un bassin de vie bien délimité. Mais d'où vous vient cette si belle et intense énergie qui vous porte à ce point?
Alors ça, je sais pas. Je me réveille le matin et j'ai envie de faire les choses. Et je pense que les idées viennent. Et puis surtout, ce qui me donne cette facilité, c'est l'enthousiasme de tous les gens qui m'entourent, que ce soit les élus, hein, puisqu'on a quand même besoin de toutes ces mairies, mais aussi les bénévoles. Et ça, je reconnais que j'ai mes bénévoles depuis le début et des nouveaux arrivent.
C'est combien de bénévoles au total qui gravitent autour de l'association ?
Alors, on peut mobiliser une quarantaine de personnes. On va dire qu'on a un noyau dur d'une bonne dizaine qui sont mobilisables du jour au lendemain en cas de pépin, un arbre qui tombe ou autre, voilà. Mais on se fait fort, et ça, c'est un peu le sujet actuel, on se fait fort de pouvoir mobiliser plus de monde. Il suffit de demander, je pense.
Vous êtes accompagné de Marie-Hélène, c'est votre compagne. C'est aussi la secrétaire de l'association La Dordogne de Village en Barrage. Bonjour Marie-Hélène, bienvenue.
Bonjour.
Vous aussi, vous êtes dévouée pleinement à cette association, au succès, à la mise en valeur de ces désormais célèbres sentiers. Comment devient-on membre à part entière de La Dordogne de Village en Barrage ?
Par passion de ce qui a été fait jusqu'à maintenant.
Vous avez intégré l'équipe quand ?
Il doit y avoir à peu près 5 ans,
ouais.
Dès que j'étais à la retraite.
Donc par passion, par le travail qui a été accompli.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et la Dordogne, elle vous parle, cette Dordogne, à vous ?
Ah oui, elle me parle beaucoup plus qu'auparavant, puisque ça m'a permis de découvrir des sites que je ne connaissais absolument pas.
C'est ça, c'est ce qu'on avait dit une fois. C'est ça. On est dans un bassin de vie qu'on a l'impression de bien connaître. Pour autant, on ne le connaît pas du tout. Et on découvre, avec les sentiers de la Dordogne de Village en Barrage, des sites magnifiques que l'on ne soupçonnait même pas.
Tout à fait. Tout à l'heure, on parlait de Champagnac. Champagnac, bon, moi, je suis né... Enfin, j'ai passé toute ma jeunesse à bord. Champagnac, c'était juste à côté, quoi. Ça se tenait. Et j'ai découvert des choses fabuleuses en traversant Champagnac, Saint-Pierre, Madic, un endroit que je connaissais particulièrement. Et j'ai là aussi découvert des endroits assez fabuleux qu'ils deviennent par la vue, en fin de compte, par le fait de ce que l'on voit. Ces vues assez extraordinaires. On a l'impression, notamment sur la rive gauche, que les montagnes nous suivent. Parce qu'on les a au démarrage à Saingles. Mais en fin de compte, elles nous quittent que quand on a sauté Aurillac-Corrèze. En fin de compte, il y a vraiment, quand on arrive en Xaintry, où on ne les aperçoit plus, enfin, la partie Sancy ne se voit plus. Alors que de l'autre côté, on continue à voir les plans du Cantal, et eux, on les a jusqu'au dernier jour.
La Dordogne de Village en Barrage est aussi portée, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, est aussi portée par des communes qui ont tout de suite capté le potentiel touristique et économique que vous leur proposiez. C'est aussi des acteurs historique sur le territoire, acteurs comme le fournisseur d'énergie électrique EDF qui vous accompagne depuis toujours. Et je salue d'ailleurs amicalement au passage Jean-François Escapil. C'est tout ça aussi qui forme la Dordogne de Village en Barrage.
Bien sûr, sans les élus, sans toutes ces personnes qui gravitent autour de nous, qui nous aident financièrement, qui nous aident en logistique, donc les communes, les intercommunalités, la volonté des élus sur la rive gauche nous a un peu surpris. D'un côté, mais après on s'est dit qu'effectivement qu'avec le travail fait par tous ces bénévoles en rive droite, on ne pouvait que être connu et reconnu. Et il se trouve que ben voilà, toutes les communes ont adhéré au projet en rive gauche, que ce soit dans le Puy-de-Dôme, dans le Cantal, comme l'avait fait la Corrèze, et les intercommunalités aussi nous aident.
Et toujours fidèles à l'heure qu'il est.
Et toujours fidèles, enfin, pour moi, c'est ce qui est assez remarquable. On est en train de mener un travail avec EDF de fond pour l'association, essayer de trouver un modèle économique plus approprié maintenant, vu la grandeur de l'association. Et là, en venant, j'étais en train de me poser la question, de me dire, mais combien de temps ça va pouvoir durer ? Parce que c'est depuis les premiers jours, et ils sont là, et c'est toute l'année qu'ils sont là. Toute l'année, ils sont avec nous.
Pour toutes celles et ceux qui foulent les sentiers, quels sentiments éprouvent-ils ? Quels sont leurs retours sur les parcours ?
Alors, il y a trois points remarquables et remarqués par les randonneurs. La première chose qui leur plaît beaucoup, à 95%, ce sont le fait qu'ils ne trouvent personne. Donc, il nous arrive des fois de recevoir sur un même gîte deux, trois groupes différents qui sont partis le même jour, qui arrivent le même jour dans ce gîte et qui ne se sont pas vus de la semaine.
Ils ne se sont pas croisés.
Voilà. Et quand on se dit que, bon, il passe plus de 1000 personnes, on se dit, mais à un moment ou un autre, ils doivent bien se trouver. Eh bien, c'est très rare. Ou alors, c'est vraiment qu'ils font un dans un sens et l'autre dans l'autre. Mais il y a tellement de points de vue que les gens en font un et pas l'autre. Et il suffit que ce soit ce moment-là. Et du coup, ils ne se trouvent pas. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr, c'est les vues. Hein, les vues magnifiques.
Imprenables.
Et le fait qu'il y ait la montagne et la rivière et ces grandes étendues faites par ces grands barrages. Ça, c'est le deuxième point. Et puis les gens, et ça, on est en train de s'en apercevoir là, maintenant, puisque avec cette rive gauche, il arrive des nouvelles personnes, des nouveaux hébergeurs, et qui nous disent il y a aussi le fait de l'enthousiasme sur le territoire de la part des gens qui y habitent. C'est-à-dire, nos gens qui habitent sur ce territoire-là, ils sont tenter d'aller vers le randonneur. En fin de compte, beaucoup nous disent, on n'a pas besoin de demander de l'eau, hein, parce qu'on nous l'offre. Et ça, ça a été pour nous certainement quelque chose qui nous a permis de démarrer autrement que sur d'autres parcours qui existent en France. Les gens qui se sont appropriés ce projet, et ça, c'est quelque chose de fantastique pour nous.
Vous avez mis en ligne quelques appréciations des visiteurs, des marcheurs. J'en ai sélectionné une. Ben, je vais vous demander tout simplement de la lire. Je vous mets au travail, Jean-Marc.
Ça va être avec plaisir. Alors, fabuleux, des paysages sublimes et des paysages de toute beauté également. Une autre manière de découvrir son territoire en cheminant sur ce sentier, au tracé impeccable. Merci de l'avoir imaginé et réalisé. Maintenant que nous y avons goûté, il nous tarde de pouvoir de nouveau fouler ces chemins. Ce que nous avons préféré, le belvédère de Gratte-Bruyère, le village de Lignac, le site de Saint-Nazaire, le site du Rogrand, tous les petits villages en général. L'alternance entre les passages en forêt et les zones très dégagées, le très bon balisage tout le long du parcours, les zones de pique-nique très bien situées et agréables.
Voilà, c'est à la fois encourageant et bienveillant. Ce sont ces petits mots aussi qui vous portent.
Bien sûr, et on en reçoit régulièrement, et sur les réseaux sociaux, on a des retours assez exceptionnels, des randonneurs. Et je veux dire, pas spécialement des randonneurs qui viennent de loin. L'an dernier, on a eu la surprise d'avoir beaucoup de gens de Basse-Corrèze qui sont venus
Découvrir
de la Covid.
Découvrir leur région.
Tout simplement, découvrir leur région. Et qui nous disent, mais on ne savait pas qu'on avait ça aussi près de nous.
Oui, mais là, pour le coup, vous pouvez dire, c'est gagné.
Ah oui, mais là, c'est gagné. C'est gagné à partir du moment où les gens de notre région même nous font ces retours-là. On peut se dire que c'est gagné, parce que les gens qui viennent de l'extérieur, ça sera encore pire. Mm-hmm. Ça va être encore pire, parce que, voilà, quelqu'un qui va arriver,
Pire ou encore mieux, Jean-Marc ?
Mieux, je ne sais pas, parce qu'en fin de compte, on se rend compte que nos Corréziens apprécient beaucoup notre région. La seule chose, c'est qu'ils ne la connaissent pas. Mmh. Et je fais partie de ces gens-là, hein, parce que si on me demandait d'aller à Brive, je ferais la même chose. Je trouverais certainement des choses très jolies à Brive, parce que je ne connais pas. Je ne connais pas. On ne connaît pas autour de chez soi.
RBA, Auvergne-Limousin, l'hebdo, suite et fin. Aujourd'hui, Jean-Marc Chirier, président de l'association La Dordogne de Village en Barrage, en ce début d'année 2023, peut-on tracer un bilan de l'année écoulée ? Quelles ont été les démarches constructives pour l'avenir de vos sentiers ?
Alors, l'an dernier, beaucoup de travail a été fait. Nous avions la chance d'avoir deux animatrices à nos côtés, Annabelle et Barbara, qui ont fait un travail assez exceptionnel au niveau du topo guide, du futur topo guide, puisque bon, qui dit rallongement, dit nouveau topo guide.
Bien sûr.
Nous avons beaucoup travaillé donc sur le parcours. Nous avons beaucoup travaillé sur ce topo guide. Et elles ont été vraiment les chevilles ouvrières de ce beau document qui va sortir en mois de mars. Et ensuite, nous avons commencé à créer des hébergements insolites le long du sentier. On en a construit un nous-mêmes. On a utilisé une entreprise corrézienne pour la fabrique du module. Et nous avons créé un aire de refuge à Laval-sur-Luzège pour 8 randonneurs. Quelque chose qui parle déjà, puisque nous l'avons mis à la location depuis le mois de septembre, fin août l'an dernier. Et les gens sont très très surpris de trouver quelque chose d'aussi pratique, avec un bloc sanitaire, avec un endroit pour
toutes les commodités.
Toutes les commodités possibles et un hébergement assez insolite, puisque j'avais souhaité et je me suis découvert un talent de poseur de bardeaux pour faire la toiture. Donc c'est quelque chose de très très joli dans un village exceptionnel qui est Laval-sur-Luzège, un village qui a une entité et les gens surtout de ce village-là qui viennent de tout horizon, puisqu'il y a des Anglais, des Hollandais et des Français. Je trouve ça assez remarquable. Et les randonneurs, ce sont plus, tous ceux qui l'ont utilisé, ce sont vraiment plus.
Puis, et pour 2023 toujours prêt.
Toujours prêt, plein d'idées, bien sûr, plein d'idées, notamment donc sur ces aires de refuge que nous allons continuer, puisqu'on a été un peu sollicité ailleurs, et donc notamment au démarrage de Confolens-Port-Dieu, puisque la difficulté des gens, c'est bien sûr les transports, c'est notre grosse difficulté pour arriver sur le parcours. Et donc les gens, lorsqu'ils ont fait 3-4 heures de train, et dans la même journée qu'ils partent après pour faire un peu plus de 15 km pour trouver le premier hébergement, c'est compliqué. Donc on va certainement au printemps commencer à faire un deuxième aire de refuge, qui sera suivi l'année d'après par un autre, et l'année d'après par un autre, puisqu'on est parti là sur 4 aires de refuge au total. Le balisage, les bénévoles ont commencé. On va essayer de l'avoir fini pour le mois de mars. au moment de la sortie du topo guide. Et puis, il nous faut aussi calculer, comme je le disais tout à l'heure, un nouveau modèle économique, des nouveaux partenariats, toujours essayer de faire les choses bien. Et puis, il va y avoir un gros programme autour des 10 ans d'existence de l'association, puisque le 23 février 2023, nous aurons pile poil 10 ans.
10 ans. 10 ans est toujours prêt, comme vous l'écrivez, à réveiller nos sens un peu plus à chaque respiration. Les sentiers de randonnée de l'association La Dordogne de Village en Barrage sont uniques en France. Pour autant, ce ne sont pas que des marcheurs français qui fréquentent ces chemins. Quelle est la popularité de vos circuits à l'étranger ? Avez-vous de la visibilité en dehors de nos frontières ?
Alors la visibilité, c'est surtout la Belgique qui nous l'offre. On a beaucoup de Belges qui viennent, ce sont des randonneurs dans l'âme. Alors nous avons après quelques Allemands et l'Écosse. Nous avons reçu quelques Écossais et chez eux, on est un peu distribués. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui m'a dit, vous apparaissez en Écosse.
Vous êtes référencé.
Référencé en Écosse. Alors ce qui va certainement nous poser problème, parce que beaucoup, il faut pouvoir les accueillir.
Ce ne sont pas uniquement des sentiers réservés aux marcheurs, mais aussi aux vététistes ou aux trailers. Faut-il être un sportif chevronné et accompli pour pratiquer vos chemins d'itinérance et d'itinérêves, ou bien s'adresse-t-il également aux promeneurs du dimanche ?
Alors franchement, on peut le dire, VTT c'est très compliqué, voire à peu près infaisable. Il y a beaucoup trop de portages. Pour tous ceux qui l'ont fait, voilà, c'est les retours. Ils se sont régalés dans toutes les parties où ils peuvent rouler, avec des singles et ainsi de suite. Mais le problème, il y a beaucoup de dénivelé. Il ne faut pas qu'on rêve là-dessus. Après, le fait d'avoir fait la rive gauche et ces nouvelles boucles va permettre peut-être aux familles de pouvoir le faire, mais par petites étapes, pas des étapes comme on peut faire sur d'autres sentiers, parce que la moindre étape, c'est tout de suite 800-900 de positifs, et là, c'est compliqué. Mais malgré tout, la Covid nous l'a prouvé. Nous avons eu des enfants en bas âge, puisqu'on a des enfants de 8 à 10 ans qui l'ont fait avec les parents. Et puis on a l'opposé. On a des gens de plus de 80 ans qui le font. Donc on peut dire que tout le monde peut le faire, mais il faut vraiment bien être préparé et bien se munir de tout ce qu'il faut et bien se renseigner avant de partir.
Alors si je me lance dans l'accomplissement de la totalité du parcours, je dis bien la totalité, ce qui me paraît d'ailleurs peu probable vu ma piètre condition et mon insignifiante préparation. Mais bref, admettons que je me lance ce défi, il me faut compter combien de jour et de nuit pour boucler la boucle ?
Pour la totalité ?
Oui.
Je veux dire qu'il faut bien 25 jours.
Oh bon Dieu !
25 jours, parce que à 20 km par jour, et 20 km par jour, il y a des endroits où on ne peut pas les faire. Il y a des zones, surtout sur la partie haute du parcours, 20 km c'est compliqué. Il faut être aguerri ou alors ne pas transporter. C'est-à-dire que la personne qui part avec l'eau le matin et son petit casse-croûte, ça va. Mais la personne qui va partir avec 14-15 kilos sur le dos, 20 kilomètres avec du 1000-1200 en positif, c'est compliqué quand même. Mais je pense que, allez, on va dire qu'il y a déjà des gens qui sont en train de s'y préparer et qui le prévoient en 25 jours.
Être le président de la Dordogne de Village en Barrage, c'est une implication de tous les jours ou une fois de temps en temps ?
C'est plusieurs heures par jour et tous les jours. Franchement, c'est pas une contrainte. Je me répète, c'est pas une contrainte. C'est parce que j'aime ça, parce que j'ai envie de donner ça à ma région, de donner ça à ma Dordogne, à ma rivière. Mais c'est vrai que voilà, c'est tous les jours. Il y a toujours un moment ou un autre quelque chose qui me rapproche de cette association et de l'emballage qu'il y a autour.
Parce que de nouveaux sentiers impliquent forcément des négociations, des discussions, des rendez-vous, des déplacements, mais également, vous en avez parlé tout à l'heure, de l'huile de coude.
De l'huile de coude, il y a des endroits où il va falloir travailler dessus. Il y a des arbres, il y a des choses, des infranchissables à l'heure actuelle qui seront franchissables d'ici 2-3 mois. Et là, je profite de votre antenne pour remercier tous les propriétaires privés qui nous signent des autorisations de passage. Parce que ça aussi, c'est assez remarquable. Je veux dire que sur 250 km que l'on vient de créer là...
Et puis ça vous évite bien des tracas pour le coup.
Ah mais bien sûr, oui. Parce qu'à partir du moment où la personne nous autorise à passer, ça nous évite déjà bien souvent d'avoir trop de parties en goudron. Et puis ça nous permet de nous rapprocher de la Dordogne. Bien souvent c'est ça, puisque les routes malheureusement ne vont pas jusqu'au bord de la Dordogne, ou peu.
Au final, vous avez gagner un pari, celui d'associer vos sentiers balisés à la grande richesse naturelle et culturelle du territoire, mais aussi de réaliser un levier économique et touristique autour du terroir et de fédérer des femmes et des hommes autour d'un seul et unique projet structurant, mais aussi d'associer dans ce même élan plusieurs départements.
Plusieurs départements, trois départements, deux régions. Pour nous, c'est exceptionnel. Même si ça existe ailleurs en France, hein, y a des gens qui sont sur 4, 5 départements, sur 3 régions, 4 régions, mais pas dans la boucle. Parce que là, on est sur de la grande itinérance, mais maintenant en boucle.
Les sentiers de la Dordogne, de village en barrage sur la haute vallée de la rivière Espérance, sur une partie très spectaculaire et point de vue époustouflant, blotti dans cette vaste réserve mondiale de biosphère qui s'étend sur 24 000 km². Autrefois, Jean-Marc, la Dordogne était domptée, vous le savez, par d'intrépides gabariers. Aujourd'hui, elle est magnifiquement mise en valeur par vous tous, par d'intrépides aventuriers et marcheurs. Le topo guide est toujours disponible, vous l'avez dit tout à l'heure, il sortira au mois de mars.
Oui, il y a une sortie prévue fin mars. Ça va être un joli document de travail pour les randonneurs, mais aussi pour les gens qui sont sur place, puisqu'il y aura quelques histoires. Il y aura la version numérique qui nous permettra de nous évader dès le matin avec une vue 3D sur la journée à passer. Et ça, c'est remarquable. C'est vraiment des beaux documents. Et parmi les 1000 que l'on a vendus de la dernière version, on a quand même pas mal de gens qui l'ont acheté pour avoir ces belles photos faites par nos photographes assez exceptionnel, hein, et amoureux de cette vallée aussi, et par les petites histoires racontées ou à lire, et puis la mise en valeur du patrimoine vernaculaire est bâti. Même moi, personnellement, je découvre autour de chez moi, là où j'ai vécu une grande partie de ma vie.
Merci beaucoup Jean-Marc Chirier, président de l'association La Dordogne de Village en Barrage. Merci à la secrétaire de l'association, Marie-Hélène, d'être venue donner quelques mots, quelques impressions au micro de RBA. C'était un réel plaisir. Je vous dis à tous les deux, à très vite, à très bientôt et longue vie à l'association.
Merci à très bientôt, beaucoup. Merci.
RBA FM Auvergne-Limousin.